pardon madame, Guillaume n'est pas là, mais je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a dit que dans l'état actuel de la Terre, si on ne faisait rien, on enlevait simplement les animaux qui y sont pour revenir à un état à peu près acceptable pour y faire paître des bêtes, il faudrait entre 7 et 10 ans. Si on n'y faisait rien, c'est-à-dire si aujourd'hui on retire les bêtes de Calmel, pour arriver à avoir une herbe consommable en grande quantité par les brebis, il faudra attendre entre 7 et 10 ans. Voilà ce qu'il a dit. Sinon, l'herbe, vous pouvez venir la voir, qui a été semée le 1er mai. Bon, elle est sortie, elle est à ce stade-là. Là, elle souffre beaucoup à cause de la canicule. On espérait un orage hier soir, on n'en a pas eu. On espère en avoir un ce soir. Mais sinon, l'herbe est sortie déjà. Alors, on voit bien, il y a eu 9 essais d'herbe de fée sur 5 hectares, 7 dans la longueur et 2 dans la largeur. Et on voit bien les différences de pousse, de couleur, de hauteur. On commence à le voir. Voilà.
Merci.
Allez-y.
Sous les panneaux, il pleut pas.
C'est enregistré, c'est mis sur le site ensuite. Donc, vous pouvez donner son nom.
Ah, pardon, Bernard Bringuet, j'avais déjà donné. Excusez-moi. Agriculteur, auquel âge imposteur. Non. Le panneau dans sa largeur, il fait combien? Il fait 4 ou 5 mètres, 6 mètres. Oui, la table. Oui. Ce qu'on voit là, la largeur.
Je crois qu'on est sur 13 mètres.
Là, on voit.
On est sur du 12 mètres. En fait, ils font 1 mètre de large, les panneaux. Il y a 12. La table. De long. Ça dépend. Bon, quand on parle de long ou de large. Bon, panneau, ça fait à peu près 1 mètre ici sur 2 mètres.
D'accord, donc si vous en mettez deux côte à côte, ça fait 4 mètres la largeur de...
La longue, 3,20 m.
3,20 m. Quand la pluie tombe, elle ne traverse pas le verre, le panneau, enfin, la matière.
Il y a aussi 2 cm d'écart entre tous les panneaux, donc pour laisser passer la pluie. Là, on ne voit pas sur le schéma, mais ils ne sont pas tous collés. Il y a 2 cm d'écart entre tous les panneaux pour pouvoir aussi laisser passer la pluie.
Avec beaucoup de modestie, je vais vous proposer de corriger le truc. Excusez-moi, ce qu'on aurait fait
volontiers. C'est une suggestion brillante, mais qui a déjà été...
Et pour répondre au monsieur, pour l'herbe sous les panneaux, en fait, elle est plus verte sous les panneaux qu'à côté, parce qu'elle sèche moins au soleil. Moi, j'ai une centrale à sorbe, et l'herbe est plus verte sous les panneaux. Pardon ? Non, mais c'est vrai, elle est plus verte entre les panneaux.
Oui, je pense que c'est aussi fait à la condensation naturelle. C'est ce qu'on constate aussi sur nous, nos parcs photovoltaïques.
Autre intervention, y compris humoristique. Question sur ce qu'on vient de vous montrer. Le monsieur le garant.
Une question qui n'a pas été posée, c'est dans le scénario numéro 3, comment envisagez-vous de mettre les capteurs de CO2, à quelle hauteur? Vous avez parlé de 2000 et j'aimerais que vous précisiez pour les gens qui sont présents ici.
Alors, on va passer du coup au visuel du scénario 3. Donc sur le photovoltaïque, ça reste pareil. Pourquoi je me retrouve dans le ciel? Je vais essayer de redescendre. Donc les panneaux restent identiques. Par contre, on va aller se rapprocher donc des collecteurs de CO2. Hop. Je crois que là, je dois atterrir. Ça va charger. Voilà, dans le cadre du scénario 3, donc de la même façon qu'il y a des lignes de panneaux photovoltaïques, il y aura aussi du coup des lignes de collecteurs de CO2, ce qui a été montré. Donc également ici c'est la partie méthanation et ici c'est la partie électrolyse. Donc vous voyez une idée de la centrale, vous voyez une idée de la superficie que ça représente. Donc on a... Pour cette maquette-là, et donc pour l'idée du projet, c'est qu'on l'a mis dans une zone, dans une zone plus creusée, voilà, pour éviter les impacts visuels, même si bon après il y a les panneaux, on en reparle aussi, et avec donc du boisement qui permet aussi d'éviter la forte convivialité.
Alors vous voyez aujourd'hui, Climeworks vous l'a dit, ils sont en train de travailler sur l'optimisation de leur process. Aujourd'hui, vous voyez, c'est la place qui est prise avec leur process actuel, dont il y aura besoin pour les 120 mégawatts. Donc on est très loin, vous voyez, là il y a tout le parc photovoltaïque, on est très très loin des usines imaginaires qui ont pu exister. Voilà, on est vraiment sur quelque chose de raisonnable au niveau de taille, et ça ne peut aller que dans le sens de la diminution. Voilà.
Encore une fois, ces maquettes ont pour objectif d'être visibles depuis chez vous. Donc on vous tiendra informé par la newsletter, enfin les mails que vous pouvez recevoir parfois, on vous tiendra informé de la disponibilité. Donc si on s'approche, on va retrouver le visuel de ce que vous a représenté Climeworks. Pour la partie méthanation biologique, c'est des colonnes. Et pour la partie électrolyseur, c'est des containers. Voilà, c'est comme ça que c'est représenté. Hop. J'arrive trop vite.
Voilà, et vous voyez que la plus grosse part de surface sur le process power to gas est pris aujourd'hui par les extracteurs de CO2. Vous voyez que la partie méthanation, donc c'est cette partie colonne, et là vous avez les électrolyseurs qui fabriquent l'hydrogène, voilà, et tout le reste en fait c'est l'extraction de CO2. Et c'est ce process-là qui va être amené à... C'est pour ça qu'on s'est mis avec Climeworks, parce qu'ils ont une véritable feuille de route pour optimiser, et d'un point de vue économique, et d'un point de vue taille, leur procédé. Mais déjà, quand on regarde l'ensemble avec les efficacités actuelles, on est sur quelque chose, voilà, par rapport au parc photovoltaïque qui est très restreint. Voilà. C'est loin d'être la majorité de la surface qui est prise par ce process-là.
Dans la partie sud, en dessous des bâtiments de Calmes, est-ce qu'on a des panneaux?
Alors, tels qu'ils sont présentés dans la concertation préalable avec les scénarios, on avait envisagé effectivement cette zone comme implantation. Là, je me suis mis sur la caméra sud. Donc ici, c'est la route, ça va peut-être charger petit à petit en qualité. Ici, c'est la route qui va au domaine de chasse. Donc effectivement, cette zone-là, pour l'instant, est utilisée pour faire l'implantation du parc photovoltaïque au sol. Après, ce qui est réfléchi aujourd'hui, c'est dans le cadre du scénario 1, plutôt utiliser la zone qui est, pour une même puissance, la zone qui est plutôt au nord du domaine, enfin de la réserve de chasse.
Ouais, parce que cette partie sud là est quand même sensible.
C'est ce qu'on a également repéré pendant la concertation préalable. Donc ce sera sûrement un des points qui sera retenu et je pense qui sera adapté si la concertation préalable se poursuit en projet. Je pense que c'est un point de vigilance qu'on a bien retenu de cette concertation.
Oui, pour vous rassurer, c'est intégré. Voilà, c'est intégré et on est en train de travailler dessus, effectivement. Voilà.
Et dans le cadre de la concertation, on se devait de produire une maquette qui correspond aux plans qui ont été donnés dans les dossiers de concertation. C'est pour ça que c'est comme ça, que c'est représenté de cette façon-là sur la maquette.
On continue. Donc merci. Hein, merci Audrey. Maintenant, la parole est à RTE, son délégué régional. Je vais vous mettre où? Donc on va parler maintenant du branchement, du raccordement électrique. Là aussi, un certain nombre de questions ont été posées. À quelle distance est possible ce raccordement? Est-ce qu'il y aura création de lignes supplémentaires? Voilà, donc c'est parmi les questions auxquelles vous pourrez répondre.
Merci beaucoup. Bon, Tout le monde est très valeureux d'avoir encore un peu d'attention à cette heure tardive. Donc, je vais essayer d'être simple et rapide. Donc, Jean-Philippe Bonnet, je suis délégué régional de RTE pour la région Méditerranée, hein, Provence-Alpes-Côte d'Azur et puis l'ex-Languedoc-Roussillon. Donc, quelques sujets pour aborder ces questions. Peut-être rappeler d'abord qui est RTE. RTE, c'est une entreprise publique en charge du réseau de transport d'électricité. C'est les réseaux à haute et très haute tension, c'est, pour faire simple, les pylônes électriques. Nous avons été créés en 2000 en nous séparant d'EDF et depuis nous exerçons cette mission en totale indépendance par rapport aux grands opérateurs énergéticiens que peuvent être Engie, EDF, Total maintenant avec Direct Energy. Et au-delà de gérer une infrastructure, hein, comme peut le faire le département avec les routes ou la SNCF avec son réseau, nous avons une mission fondamentale d'assurer à tout moment l'équilibre entre la production et la consommation. Hein, nous avons des dispatchings avec des gens qui travaillent en 3-8 pour à tout moment surveiller que tout se passe bien et que vous avez partout, tout le temps, de l'électricité. Donc ça, c'est un travail qu'on fait au quotidien. Mais on fait aussi un travail à long terme. On éclaire le gouvernement sur un certain nombre de choix, hein, en particulier dans les choix sur les filières, quelle place pour le nucléaire, les énergies renouvelables, les énergies fossiles. Ben, on remet aussi, on travaille, on a des modèles pour essayer d'éclairer ces questions-là. Alors, globalement, comment ça marche le système électrique, hein, vous avez de la production d'électricité, souvent faite dans des grosses centrales électriques, qui est envoyée sur le réseau de transport. Cette électricité, elle est répartie sur le territoire. Nous la livrons aux distributeurs, essentiellement Enedis, qui lui-même va la redistribuer à l'ensemble des villes et des campagnes, aux particuliers bien sûr, aux PME, PMI professionnels. Bon, et puis il y a quelques gros sites industriels que nous pouvons alimenter directement. Alors c'est le cas des stations TGV, c'est le cas des grandes industries chimiques ou d'acierie. Voilà, ça c'est l'histoire qu'on raconte traditionnellement pour montrer comment fonctionne le système électrique. En fait, il y a une autre histoire qui est en train d'émerger depuis 15-20 ans, et qu'il faut qu'on raconte aussi, c'est que de plus en plus, ce qui se passe, c'est que de la production d'électricité, on en voit arriver de manière décentralisée. Et cette production, ben, c'est celle que monsieur vous avez chez vous, et elle est injectée directement dans les réseaux de distribution. Alors pour une partie, elle va rester dans le réseau de distribution, elle va alimenter directement de la consommation. Mais il arrive un moment où, à certaines périodes de la journée, par exemple, quand il y a beaucoup de soleil, il y en a trop par rapport à la demande locale. Et donc cette électricité, elle va remonter sur le réseau de transport. Donc de plus en plus, nous, sur le réseau de transport, on voit aussi de l'électricité qui remonte des réseaux de distribution. Ça fonctionne dans l'autre sens et on doit la répartir sur le territoire. Donc ça, c'est un changement assez majeur sur lequel je reviendrai. Quelques éléments. Ben, on a aussi un rôle central, un peu un tour de guet de système électrique ou plutôt tour de contrôle pour parler aéroport. Donc on est capable de produire ce type de graphique. Alors c'est un peu ésotérique, mais là vous avez sur une année, mois par mois, enfin c'est même jour par jour, les fluctuations de la consommation électrique du département de l'Hérault. Vous voyez, alors là l'année dernière, c'est 2018, donc il a fait très froid à la fin du mois de février, début mars. Donc il y a eu un gros pic de consommation, puis après ça a rediminué. Et puis vous avez la production d'électricité dans ce même département. Vous voyez que l'Hérault, il produit à peu près 20% de sa consommation d'électricité. Bon, et encore, tout ça fluctue, la consommation fluctue, la production fluctue. Si on essaie de regarder un peu autour de la zone du Larzac, alors j'ai pris une large zone hein, de Millau jusqu'à l'Audève, on a pareil des fluctuations assez importantes de la consommation. Et puis une production qui est là aussi très renouvelable. Le jaune, c'est le solaire. Le bleu, c'est l'hydraulique et le vert, c'est l'éolien. Donc vous voyez que de temps en temps, effectivement, la production équilibre la consommation. Et puis il y a d'autres moments où, heureusement qu'il y a le réseau électrique pour pouvoir apporter le complément d'électricité au territoire. Une autre manière de voir ça, c'est ce type de représentation là où finalement, à chacune des bulles que vous voyez, c'est un point d'entrée ou de sortie sur le réseau de transport de RTE. Une bulle bleue, ça veut dire que RTE livre de l'électricité et la taille de la bulle montre la quantité. Une bulle orange, ça veut dire qu'on reçoit de l'électricité. Ça, c'était le paysage électrique qu'il y avait en 2000, c'est-à-dire très centralisé. On a les grandes centrales de la CNR, On a la vallée de la Durance ici, et puis dans les Roues, il y a finalement assez peu de production. Il y a une centrale hydroélectrique là qui produit. Et puis petit à petit, avec le développement des énergies renouvelables, ben, on a vu le paysage électrique changer. Quand on regarde en 2015, sur une après-midi de printemps, ben, on commence à voir de la production éolienne quand même significative, là, ici. Et puis on commence à voir des territoires où il y a du solaire et où finalement, là, c'est pas qu'ils arrêtent de consommer, c'est qu'il y a tellement de solaire autour de Saint-Maximin-Brignoles dans le Var que cette électricité, elle remonte sur le réseau de transport et nous, on doit la re-répartir ailleurs. Voilà. On a essayé de se projeter aussi ce que ça pourrait donner en 2025. Donc, vous voyez qu'en 2025, si le développement des ENR se poursuit, ben, on pourrait avoir des vastes zones du territoire méditerranéen qui sont, à certains moments de l'année, excédentaires en électricité. Donc, ils produisent plus d'électricité qu'ils n'en consomment. Bon. Après, si on se met le soir, là j'ai pris une soirée avec du vent, bah, tout ce qui est solaire a disparu, il reste les parcs éoliens qui sont plutôt dans la partie ouest. Si on se met sur une nuit d'été sans vent, bah, là on ne produit plus d'électricité, donc il faut qu'on aille la chercher ailleurs, avec peut-être le vent de la Manche-Mer du Nord ou alors d'autres types de production. Bon voilà, donc tout ça, c'est un peu une introduction un peu longue, mais pour montrer que le réseau électrique, il est quand même, il change vraiment de fonction, ça fluctue énormément et donc on a une mission complexe à gérer. Alors ce réseau, effectivement, il faut qu'il s'adapte à la transition énergétique. Alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on a toute une démarche qui a été lancée qui s'appelle les schémas régionaux de raccordement au réseau des ENR. Trois mots clés à retenir, c'est que dans cette démarche, d'abord, ce que nous faisons, nous RTE avec Enedis, c'est planifier des investissements pour adapter notre réseau au développement des énergies renouvelables. Donc évidemment, on va voir les régions, on va voir la région Occitanie, on va voir l'État, on discute aussi avec l'ADEME, on va voir les producteurs d'électricité pour essayer d'anticiper où va arriver la production. Et nous, on planifie aussi des investissements. Enedis rajoute des transformateurs, nous, on peut rajouter des câbles. Enfin, on essaie de développer notre réseau pour que il accompagne ce développement de la production. Ensuite, une fois qu'on a prévu ces investissements, ben, ça va permettre de créer de la capacité d'accueil. Cette capacité, on la réserve aux énergies renouvelables. C'est-à-dire on fait en sorte que quelqu'un qui arriverait avec production d'électricité fossile, il ne puisse pas profiter de ces investissements. Ils ont été faits pour les énergies renouvelables. Et troisième volet, on mutualise les coûts d'adaptation. C'est-à-dire que quand un producteur d'énergie renouvelable va profiter de ses capacités réservées, eh ben, il va mettre de l'argent au pot pour financer les investissements qui ont été réalisés de manière à pouvoir continuer à amorcer la pompe et que la pompe ne s'arrête pas, qu'on puisse préserver l'avenir et continuer à créer de la capacité. Alors, qu'est-ce que ça donne typiquement? Alors, ici, on est à la frontière de deux régions administratives qui ont fusionné, mais qui à l'époque étaient différentes. Donc j'ai deux cartes un peu différentes, mais vous avez là l'ex-Languedoc-Roussillon, ex-Midi-Pyrénées. Et vous voyez, sur chacun des postes électriques, on a des chiffres qui représentent la capacité en mégawatts que nous avons réservée pour les énergies renouvelables. Vous voyez, on est souvent, c'est des chiffres pas forcément très grands, 4, 5, 8 hein, pour des petits projets. Ça peut monter à 20, 30, voire parfois 80 ou 180. Donc ça, c'est effectivement toute une démarche de planification dans laquelle les énergies renouvelables s'inscrivent. Et ici, sur ce territoire, pour l'instant, alors, on a prévu de créer des nouveaux postes électriques plutôt dans le PNR du Haut-Languedoc, avec un certain nombre, c'est les ronds que vous voyez ici, qui sont des nouveaux postes électriques qu'on prévoit de créer pour accueillir les énergies renouvelables. Par contre, aujourd'hui, il n'y a rien de spécifique prévu sur le Larzac pour l'accueil d'énergies renouvelables. Alors, ça, c'était la planification qui a été faite vers 2014-2015. Évidemment, il va falloir reprendre nos études parce que, ça a été largement précisé ce matin, nous allons intégrer les nouvelles ambitions de la région Occitanie dans ces démarches énergie positive avec des chiffres qui vont plus loin que l'existant. Hein, un peu plus de doublement de la puissance éolienne et puis multiplication par 4 à peu près de la puissance solaire à accueillir. Donc là aussi, il va falloir adapter les réseaux pour pouvoir les raccorder. Alors, dans le cas d'Arcolia, du projet Solarzac, c'est quand même assez spécifique en ce sens que c'est un grand parc solaire. Voilà. Et que tout ce qui a été fait, que je vous ai expliqué, c'est plutôt fait pour favoriser le raccordement de parcs chez Enedis, derrière des postes de distribution. Les grands parcs, à ce niveau-là, ils viennent se raccorder directement chez RTE et ils payent quand même leur quote-part des investissements, mais effectivement, c'est parfois un peu spécifique. Alors, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Hein. Aujourd'hui, nous avons déjà des grands parcs solaires qui sont raccordés directement au réseau de RTE. Le plus grand en France, c'est celui de Cestas dans les Landes, qui fait 230 MW. Donc c'est plus que les scénarios 1 et 3 de Solarzac. On a 100 MW sur le plateau de Valensole du côté des Mets, 70 MW à Gréoux-les-Bains. Et même dans la moitié nord de la France, vous avez des grands parcs, je crois que c'était d'anciennes bases militaires qui ont été récupérées pour des puissances relativement importantes. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on sait faire, raccorder un grand parc solaire. Après, ça ne se raccorde pas n'importe comment. C'est-à-dire que selon la puissance du parc, bah, il faut aller chercher des réseaux de tension de plus en plus grandes. Hein, vous savez que sur ces réseaux électriques, plus la tension est élevée, plus on peut faire circuler le courant dans les câbles. Donc les règles fixées par l'État disent que quand on est entre 50 et 250 MW, c'est raccordement sur du réseau 225 000 volts. Et au-delà de 250 MW, il faut aller chercher du réseau à 400 000 volts, qui est le plus haut niveau de tension exploité en France. Donc ça, c'est le cas des scénarios 3 et 1. Et sur le scénario 2, on est sur un niveau de puissance encore plus élevé. Alors, si on regarde quel est le réseau électrique autour du projet, donc voilà le type de carte avec lequel nous on travaille. Donc c'est des codes couleurs qui ne vous sont peut-être pas familiers, mais RTE fonctionne avec trois niveaux de réseau. Le rouge qu'on devine ici, c'est le 400 000 volts. Hein, ce sont les autoroutes de l'électricité, c'est là où on fait passer le plus d'électricité. On en a une autre aussi qui traverse un grand axe nord-sud un peu plus loin. Le vert, c'est le 225 000 volts, c'est les routes nationales ou les voies express de l'électricité. Et puis le violet, ce sont nos routes départementales qui vont irriguer encore plus finement le territoire. Donc le violet, pour Solarzac, on oublie, il n'a pas la capacité d'accueillir une telle puissance. Donc ensuite, pour le raccordement, soit sur les scénarios 1 et 3, on peut imaginer créer un échangeur sur cette ligne pour évacuer l'électricité sur la ligne de 225 000 volts. Pour le scénario 2, cette solution ne marche pas. Et donc, il faut aller chercher le réseau à 400 000 volts et probablement jusqu'au poste de Tamaro, ici. Alors, c'est des choses qu'on n'a pas étudiées. On se dit, quand on regarde la carte, probablement ce qu'il faudrait faire. Voilà, là aussi, on se dit s'il faut faire... Alors, comment on réaliserait ça ? Vraisemblablement en souterrain, c'est-à-dire qu'on n'imagine pas là, de créer une ligne électrique aérienne en site vierge à 225 000 volts. Enfin, sinon, on aurait droit à un nouveau débat public, hein, on ferait travailler la CNDP. Non, mais aujourd'hui, on sait faire du souterrain quand on a finalement des tracés favorables. Et c'est là que je dis, ça faudra regarder de près. Intuitivement, on a envie de se dire autant passer le long de l'autoroute. Sauf qu'une autoroute, c'est pas simple. C'est une succession d'ouvrages d'art. Il y a des tunnels, il y a des viaducs. Et que passer des câbles électriques gros comme ça le long de viaduc ou de tunnel, c'est pas simple. Voilà. Donc aujourd'hui, clairement, on ne l'a pas étudié. On n'a aucune idée de la faisabilité. On n'a aucune idée du chiffrage. Et après, on sait que passer par les routes secondaires... là aussi, bon courage, parce que déjà en voiture, c'est compliqué. Alors quand il faut faire un trou et passer un câble, ça l'est aussi. Donc voilà, on sent bien que ce scénario 2 à raccorder, ici, il est quand même compliqué. Voilà, dernier point que je voulais évoquer, parce qu'on en a beaucoup parlé. Qu'est-ce qu'on pense du power to gas ? RTE est partenaire de Jupiter 1000, hein, qui est le projet qui a été évoqué à Fos-sur-Mer, qui est piloté par GRT Gaz. Tout ça pour dire qu'on discute avec nos homologues des réseaux gaziers. Vous avez cité ce cas-là. Alors, Autant je vous concède que faire parler EDF et Engie, c'est compliqué. Mais entre gestionnaires de réseau indépendants, on se parle quand même bien. Et donc RTE est partenaire de ce projet, ce qui nous permet effectivement de traiter ou de regarder un certain nombre de questions sur la place que tout ça pourrait prendre demain dans le monde de l'énergie. Alors nous, là où on en est de nos réflexions sur ce sujet-là, c'est de dire finalement, à quoi peut servir demain le power to gaz ? Certains nous disent le power to gas, ça va être génial parce que ça va offrir des flexibilités au système électrique. Ça va vous permettre d'accueillir des énergies renouvelables et de gérer le fait que vous ne savez pas stocker l'électricité. Là, nous, on a quand même des doutes par rapport à ça, parce que des flexibilités sur le système électrique, on en a quand même pas mal. Il y a des choses qui sont plus efficaces. Il y a un point quand même, je suis désolé de le dire peut-être un peu brutalement, mais si on se dit on veut utiliser le power to gas uniquement pour des besoins électriques, ça veut dire qu'il faut que vous mettiez 2 kWh dans le système pour produire 1 kWh de gaz, puisque j'ai compris qu'il y avait un rendement de 50%. Et après ce gaz, si vous voulez, si vous avez l'idée saugrenue de vouloir la retransformer en électricité en hiver, par exemple, il faut savoir qu'une centrale à gaz, il faut mettre 2 kWh de gaz pour avoir 1 kWh électrique, parce qu'elle aussi, elle a un rendement qui est de à peu près 50%. Donc ça veut dire que c'est un stockage d'électricité, mais dans lequel vous devez mettre 4 kWh au frigo, et quand vous réouvrez le frigo en hiver, vous récupérez que 1 kWh. Donc c'est quand même pas super efficace, et on se dit pour le système électrique, il y aura peut-être d'autres solutions plus pertinentes, et notamment dans les scénarios qui sont bâtis jusqu'en 2035, on voit pas trop de pertinence pour le power to gas, pour répondre, là encore, aux besoins électriques. Par contre, mais je crois que c'est bien l'option telle que vous la présentez, utiliser le power to gas pour décarboner le système gazier, c'est-à-dire pour que ceux qui utilisent le gaz pour se chauffer, pour faire la cuisine, puissent avoir un gaz vert et ne pas libérer du gaz fossile qui est stocké depuis des millénaires dans les gisements profonds, là, oui, pourquoi pas. Après, effectivement, mais là, c'est plus trop notre domaine parce qu'on parle de gaz, c'est comment est-ce qu'il va se positionner en concurrence avec les autres modes de production de gaz vert que peuvent être la méthanisation, la pyrogazéification. Donc voilà. Mais je crois que ça, c'est un sujet où effectivement toutes les filières aujourd'hui sont en voie de maturation, les coûts évoluent très vite, donc on verra quel est celui qui gagnera. Donc voilà un peu pour ce que je voulais exposer, mais je suis à votre disposition pour répondre à d'éventuelles questions.
Très bien, monsieur Bonnet.
À vous. J'étais sûr que vous alliez poser une question, monsieur Bonnet.
J'ai plusieurs questions pour RTE. Oui, donc Jacques Lévesque, j'exploite une station solaire au sol. J'ai plusieurs questions pour RTE. Les 180 MW, est-ce que c'est le plafond qu'on peut injecter dans les 225 kW qui passent au LUC? Je pense que c'est ça. Hein, on ne peut pas dépasser 180 MW dans cette ligne. Mais par contre, est-ce que c'est 180 MW en permanence ou est-ce que vous avez des conditions de délestage si vous avez une surproduction ailleurs?
Alors, la capacité d'une ligne électrique, elle dépend elle est limitée par l'échauffement de la ligne, le fait que les câbles s'allongent, se rapprochent du sol. Et elle est en général plus faible en été, parce qu'en été il fait plus chaud. En hiver, elle se refroidit mieux. Donc la capacité de cette ligne, elle est effectivement suffisante pour accueillir les 180 MW, il y a même de la marge. On sait, et puis en plus, on peut penser que le courant va partir dans les deux sens, d'un côté et de l'autre. Donc on a même un peu de marge par rapport à ça. Bon, ensuite, le courant dans cette ligne électrique, il est, comme c'est un réseau maillé à l'échelle nationale européenne, il est influencé par tout ce qui se passe aussi dans toute la France. Bon, alors plus spécifiquement par ce qui va se passer autour, selon que la production hydroélectrique du côté pas très loin à l'ouest va fonctionner ou pas. Donc voilà, c'est extrêmement complexe. Nous, de toute façon, on a des modèles qui prévoient en permanence ce qui se passe. Bon, et le cas échéant, si on a une situation d'urgence, qu'il y a trop d'électricité qui passe à cause de la production, on mettra en place, de toute façon, on le fera dans tous les cas, on mettra en place des automatismes avec SolarZAC, de manière à pouvoir, en quelques secondes, réduire la production, voire couper de la production, pour éviter que le réseau s'effondre et que les consommateurs de la zone perdent l'électricité. Oui, c'est ça notre souci.
Excusez-moi, là, vous allez le délester au moment où il va produire le plus, c'est-à-dire en été, en plein soleil, là, vous allez le délester et sa recette de production va dégringoler d'autant. Et en fait, Solarzac sera entre les mains de RTE qui les délestera quand ils voudront.
Alors, je vais reprendre. Nous allons faire en sorte que, quand la situation est normale, qu'on n'a pas de panne, que tout fonctionne bien, on n'ait aucune obligation de délester. Voilà, on saura accueillir la production. Ensuite, si on a une avarie, si on a une panne, si on a un incident, là, on se réserve la possibilité d'aller délester.
J'ai deux autres questions.
Mais c'est quelque chose qui n'arrive que rarement. Et dans ce cas-là, nous, on indemnisera Arcolia pour la perte de production. Et on sauve le réseau, on indemnise, mais voilà, on ne va pas rajouter encore des lignes électriques qui ne serviront qu'une fois tous les 4 ou 5 ans parce qu'on aura un incident. Donc on accepte ce risque et on le gère comme ça par des interventions d'urgence.
J'ai une autre question. Le raccordement à votre poste à 225 000 volts, il est prévu au nord de votre parc, enfin tout à fait au nord de la propriété, et la production sera au sud. Donc là, vous aurez des transfos de 3 MW, je pense qu'ils vont... Donc au nord. Oui, mais justement, ça va vous coûter plus cher de ramener votre électricité au nord. Mais si, parce que vous aurez des postes de 3 MW qu'il faudra ramener en 30 kV jusqu'à la station. Ah bah si.
Bon, ça c'est de l'optimisation d'ingénieur.
Voilà, je pense que qu'on importune les non-spécialistes avec un discours. Vous aurez l'occasion de discuter tous les deux dans quelques minutes, puisqu'on a prévu un petit buffet. Je pense que vous aurez d'autres questions. Oui, mais plus grand public, c'est possible.
Bon, la troisième question, c'est dans le scénario 2, avec le poste à Montpellier, avec la ligne à 400 000 volts, il n'y a pas de rentabilité par rapport au... La meilleure rentabilité, c'est le scénario 1, c'est pas le scénario 2, parce que vous aurez l'amortissement de la ligne sur les 300 MW.
Alors là c'est à... Alors, pour le coup, nous, on est clair, on refacturera à Arcolia le coût de la ligne. Donc, c'est à eux de faire les choix en termes de rentabilité. Pour le coup, là, c'est plutôt bien fait. Ce n'est pas la collectivité, ce n'est pas l'ensemble des habitants et des Français qui paieront cette ligne-là. C'est bien à Arcolia d'assumer ses choix économiques.
Très bien. Encore quelques questions ou on prépare Monsieur Salomon.
Oui, c'est plutôt une question pour Arcolia. Dans le scénario 3, la part qui est consacrée à la production directe et la part qui est consacrée de production électrique qui est consacrée à la partie gaz est à peu près la même, c'est ça, si je me trompe. Et 138 MW, c'est gaz. Quand dans votre dossier, vous parlez de 138 MW gaz, c'est la production de gaz. C'est la Ah d'accord, c'est pas l'équivalent énergétique de la production de gaz.
Non,
d'accord. Donc il y a 240 sur la partie électricité directe, c'est ça? Pardon, 160, oui, donc 240 gigawattheures. Donc 140 sur la partie électricité directe et 168, c'est ça? 170 sur pour la, d'accord, très bien, merci.
Oui, on est sur 45-55, voilà, à peu près.
Bien. Monsieur Bonnet, a-t-on d'autres questions pour vous sur le raccordement, sur la façon dont on continuera autour d'un buffet? Voilà, donc merci à vous. Merci à vous également tous d'avoir participé ce matin avec ces nombreuses questions. Vous avez maintenant un petit buffet qui vous attend avec une petite collation comme d'habitude et on pourra continuer à échanger. Merci. Continuez à échanger. Merci.